La spécialité, ce sont les langues de spécialité, si je puis me permettre, et en particulier celle des marins. Plus récemment, ça c'est les toutes dernières recherches, j'étudie aussi la langue de spécialité des chasseurs. Alors les marins, comment j'en suis arrivée là ? J'ai d'abord commencé par une thèse doctorat sur les termes scandinaves intégrés dans les parlers de Normandie. Voilà, et ces termes sont très peu nombreux, hein, mais l'intérêt, il y en a à peu près 150, 155, vous voyez quand même, hein, ça démolit aussi bien des mythes hein, sur les Vikings en Normandie. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces termes sont bien sûr à connotation maritime, ce qui n'est pas surprenant. Hein. Les Vikings, c'était quand même de grands marins, peut-être les plus grands de leur époque, et à 60%, ce vocabulaire, donc, intégré dans les parlers de Normandie, anciens, sont à 60% maritimes. Et au sein même de ce vocabulaire maritime, j'allais dire, il y a encore une spécialisation. Ça veut dire que c'est pas seulement des termes de pêche. On pourrait s'attendre à ce que nos Vikings nous aient apporté plein de termes de pêche, comme si les gens ne savaient pas pêcher avant. Pas du tout. Ce sont des termes relatifs aux navires, à la navigation. Et ce sont des termes très techniques. Voilà, c'est ça qui est quand même très intéressant. Hein, donc, vous voyez, à travers la spécialité, on a encore une autre spécialité, hein, des termes techniques qui se rapportent à la construction du navire et surtout au gréement. Alors, le gréement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont tous les cordages hein, qui permettent de manœuvrer la voile. Voilà. Hein, donc, des termes incompréhensibles, j'allais dire, quand ils sont sortis du contexte. Hein, donc, on est bien sûr... le legs de marins hein, qui se sont installés voilà en Normandie et qu'ont légué ce vocabulaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce vocabulaire a quand même survécu jusqu'à nos jours. Hein. La quille d'un bateau, ça vous parle quand même. Mais si je vous parle comme ça de bouline ou d'écoute, là déjà, c'est quand même plus difficile. Hein. Voilà. Alors, ces mots, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont employés, on les trouve dans des textes d'anciens normands, normand, anglo-normand, hein, je ne veux pas faire tellement la différence. Hein. Donc on est au XIIe siècle et on les trouve donc dès cette époque-là, en particulier chez Vasse, hein, donc écrit vers dans le roman de Bru, 1155, dans le roman de Roux, 1160-1170, chez Thomas, celui qui a écrit une version d'un Tristan, Guillaume de Berneville. Hein, et on a des textes que j'ai qualifiés des textes de marine. Hein, il y en a donc, ça en fait à peu près 3-4. Où ce vocabulaire est employé de manière très vivante. Alors on pourrait croire, est-ce qu'ils savaient de quoi ils parlaient ? Alors tout à fait, parce que je les ai retraduits, elles sont traduites déjà, ce sont quand même des œuvres connues, je les ai retraduits parce qu'en fait, on pouvait penser que ce sont des littéraires, ils savent pas de quoi ils parlent, et puis en fait, nos auteurs, faut croire qu'ils devaient quand même bien connaître la marine, parce que les textes sont justes, donc c'est... Je trouve toujours, j'insiste beaucoup sur ces textes-là, ils sont exceptionnels. On a les textes les plus anciens, je dirais, d'un point de vue maritime, avec des scènes d'appareillage, des scènes de gréement. Alors quand je les présente en ancien français et quand je les présente des fois, j'ai souvent communiqué sur ce sujet au grand public, quand je lis la traduction, de toute façon, personne comprend quand même trop parce que ça reste très technique. Nous sommes sur toujours le mouvement d'un navire. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a une conscience... très tôt d'une langue de spécialité, hein, la langue des marins, et on a une petite phrase comme ça dans Vasse, dans le roman de Roux. À un moment, il parle du chef du narive, c'est-à-dire la tête du navire, et il dit que les mariniers, que les marins appellent bran. Ça veut dire que les marins, il parle du terme courant, mais les marins, ils avaient un autre mot qui était le terme bran. Alors ce terme d'origine scandinave, hein, je ne veux pas me fixer que sur nos Vikings, vous allez voir, ce terme d'origine scandinave, ça veut dire que c'est un terme passé de marin à marin, qui est resté, parce qu'on est dans les réseaux sociaux, qui est resté quand même dans un milieu assez confiné et que d'autres personnes ne vont pas comprendre ou ne vont pas employer. Alors je continue sur les textes. On trouve après des textes vers le XIVe siècle. Hein, je pense au conte du Clos des Galets de Rouen. Alors dès que c'est un conte, c'est pas un roman à lire, hein, c'est toujours un petit peu fastidieux. Et là on a des quittances hein, qui montrent voilà le coup d'une galère, qui va parler d'une barge. Et là on a les termes de construction. Hein, les termes de gréement, on les a chez les littéraires parce que ça illustre toujours une scène littéraire. C'est le départ d'un navire, hein, ça va être voilà, c'est la tempête, voilà, c'est pour ça. Alors que la fabrication du navire, il n'y a pas à dire, ça reste quand même très technique. Ce sont des termes de charpentier. Et donc, on les trouve donc au XIVe siècle dans ces contes du Clos des Galets de Rouen. Alors, pareil, hein, en dehors, j'allais dire, des spécialistes, c'est quand même très difficile à lire. C'est assez incompréhensible parce que c'est très technique. Voilà. Donc, ce qui caractérise, bien sûr, nos langues de spécialité, c'est la technicité, hein, du métier. C'est le métier. Hein, c'est la technique. Alors, ce vocabulaire maritime, vous voyez, très ancien, il y a plusieurs apports. Il va se caractériser aussi par un apport extérieur important. C'est peut-être la langue de spécialité qui emprunte le plus aux langues européennes, hein, voire extra-européennes. Hein, on aura ça au XVIIIe siècle. Alors, le premier emprunt, moi, que j'ai bien peut-être trouvé, c'est bien nos Scandinaves, mais après, il y en a bien d'autres. Hein. Il y a les Néerlandais. Vous allez trouver à partir du XIVe siècle un vocabulaire néerlandais. Ensuite, on a tout un vocabulaire dans le sud de la France, génois, spécifique aux galères. Ça veut dire qu'il y a presque deux vocabulaires selon ce qu'on appelle le ponant en maritime, hein, donc la Manche, l'Atlantique. Et en Méditerranée, on a une autre façon de décrire le navire. Alors, c'est lié aux techniques. On ne peut pas étudier, vous voyez, ce vocabulaire si on ne se met pas tout d'un coup à devenir un peu charpentier et un peu marin. On est obligé de travailler sur les aspects techniques et les aspects historiques aussi. Hein, donc c'est ça, c'est assez difficile de ce point de vue pour pouvoir dater un mot, revoir l'étymologie d'un terme. Alors ce vocabulaire, cette langue de spécialité, je m'intéresse toujours sur le terme langue de spécialité parce que on est bientôt plus sur l'utilisation d'une terminologie, hein, particulière. On va commencer à vouloir peut-être la formaliser, mais en tout cas recueillir tous les termes. Alors, ce ne sont pas des marins qui le font au début, c'est ça qui est amusant. Ce sont des tout d'abord les lexicographes, hein, donc déjà Dupuis, fin 16e et début 17e, Nico, hein, on trouve déjà dans leur dictionnaire de langue française, dans les premiers dictionnaires de langue française, il y a déjà des parties de leur dictionnaire consacrées à ce vocabulaire maritime, sous-entendu pour eux il est particulier, hein, et il faut attendre finalement le 17e, hein, mais même fin 17e, pour que le dictionnaire de marine devienne quasi autonome. C'est-à-dire, c'est un genre nouveau qui va apparaître. Hein, donc, c'est assez timide. Et bien que la langue soit très ancienne, hein, comme je vous l'ai expliqué. Hein, donc, en fait, il va y avoir... Alors, ça commence par, encore une fois, pas des marins. Vous allez voir, c'est assez curieux, l'évolution. C'est très intéressant. Ce sont d'abord un avocat, le plus ancien. Explication des termes de marine par un certain Clérac, un avocat. Parce qu'il avait affaire à des procès avec des bateaux, etc., etc., et qu'il avait un vocabulaire très particulier, assez incompréhensible pour le néophyte. Donc, il va commencer à faire des glossaires. Hein. Au début, c'est pas des dictionnaires, ce sont des petits glossaires. Hein. Georges Fournier, hydrographie, pareil, il va commencer, en 1643, va commencer à faire des glossaires. Donc, au début, c'est timide, on est sur 300 mots. Et puis, un des premiers dictionnaires de marine, Desroches, hein, donc on est à la fin du 17e, là on a dictionnaire propre de marine. Là ça y est, ça commence. Et puis, eh ben, au 18e, écoutez, j'allais dire, le genre est bien ancré dans la culture, au moment aussi où les dictionnaires, les encyclopédies d'école en France, hein, donc là on aura nos dictionnaires de marine, on va en avoir pas mal. Et là, ce sont des officiers de marine qui le font, parce qu'il y a la notion de bien dire la langue des marins. Alors ça revient toujours. Chacun va faire la préface, qui va le mieux tire la langue des marins. Alors c'est un peu un concours de préface, c'est assez marrant, d'un dictionnaire à l'autre. Hein. Ils assomment des fois leurs prédécesseurs, hein, en disant il a pas bien dit les mots, c'est pas la bonne définition, on va revoir tout ça. Donc voilà, ils en rajoutent. Et là, ce sont des officiers de marine. C'est ça qui est intéressant, on est dans le métier, et là on est vraiment dans le réseau des marins, hein, qui remettent les choses à plat, ils reprennent main, j'allais dire, sur l'écrit, ou en tout cas le dictionnaire. Et ça sera tout le temps comme ça après, hein, on est vraiment dans les professionnels, même 19e, on est dans le professionnel de marine. Alors on a remarqué aussi, alors je vais vous présenter très brièvement, hein, toutes ces recherches aboutissent à Dicomarine, bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine. La base est en ligne, c'est une base de données qui inventorie les dictionnaires de marine entre le 17e et le 19e siècle. Les dictionnaires propres de marine, hein, donc en fait on n'a pas pris les dictionnaires de langue courante, même si à l'intérieur il y a pas mal de termes de marine traités. Hein, donc en fait voilà, il y a un accueil, donc c'est un projet qui est fait entre le pôle espace maritime et puis le pôle du document numérique. Vous avez une bibliographie, je vais pas donc c'est c'est vraiment une bibliothèque, c'est-à-dire on décrit le livre. Alors ce qui est intéressant, la personne qui m'a aidée aussi pour décrire les livres, c'est qu'en fait souvent ils étaient dans la bibliothèque du port de Cherbourg par exemple, hein, avec l'encre marine bien tamponnée sur le dictionnaire, hein. Donc en fait on est vraiment dans un milieu de marins, le dictionnaire de marine est lié aux marins. C'est un peu bête ce que je dis, mais c'était pas si évident, hein, comme je l'ai dit au début, hein, ce sont pas des marins qui se sont penchés sur ce vocabulaire. Alors que c'est comme si les dictionnaires sont liés aussi à l'évolution. La marine va devenir plus scientifique aussi à une époque. Hein, les mathématiques s'introduisent dans la construction navale, etc., etc. Et pour affirmer qu'un domaine devient une science, hein, il faut montrer qu'il y a une terminologie. Et je pense que c'est tout à fait lié aussi à l'évolution de la construction navale, l'évolution des techniques. Hein, donc voilà. Et il y aura l'Académie de marine. Hein, faut penser au 18e qui va effectivement faire son grand dictionnaire qui a jamais été publié. Alors je vous ai apporté, vous pouvez le voir. Il y a eu un projet de dictionnaire qui s'appelle Nouveau glossaire nautique d'Augustin Jalles. Hein, Monsieur Jalles, c'était pas un marin, lui. Il était archiviste à l'Académie de marine. Et il avait commencé un dictionnaire. Il n'avait pas commencé. Il avait publié un énorme dictionnaire glossaire nautique. Donc et une équipe à 40 ans. À réviser ce dictionnaire et donc j'ai repris la rédaction à partir de la lettre M, le dernier volume, on va fêter ça, TZ paraîtra, parce que quand au bout de 40 ans, vous comprenez bien qu'il est temps que ça s'arrête quand même. Voilà, donc pour mes dictionnaires de marine. Alors, pour revenir au sujet sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui est souvent dans les dictionnaires de marine qu'on a oublié. C'est les petits marins, les marins de nos côtes. Vous voyez, c'est la grande marine, c'est la marine royale hein, quand même. Les petits marins de nos côtes, eh ben, on n'a jamais inventorié le vocabulaire. Les spécialistes de dialectologie normande se sont pas du tout intéressés au vocabulaire maritime. Et dans les dictionnaires de patois, il n'y a rien. Le patois est lié au monde rural, il n'y a rien à faire. Alors ce qui est intéressant, je suis tombée sur un mémoire de maîtrise, comme quoi remarquable. Donc faites bien attention à vos mémoires de maîtrise, ça peut rester. Un mémoire qui date de 1994, c'était une enquête à Port-en-Bessin. Et le jeune homme, je l'ai connu un peu et je regrette d'avoir perdu sa trace maintenant. Ce jeune homme avait fait une enquête dialectale à l'origine, mais sans le savoir, il était parti sur ses termes de marine. Alors c'est très très intéressant. Les marins locaux, j'allais dire, patoises, et en plus ils emploient un vocabulaire technique. Donc c'est quand même très dur de les comprendre. Et le vocabulaire technique est complètement intégré à leur quotidien. Un exemple, le marin porté, il capelle son pull. Voilà, il n'enfile pas son pull, il le capelle exactement comme on va capeler un cordage. Ensuite, il ne prend pas la petite cuillère pour tourner son café, il prend son aviron. Tout est comme ça. C'est assez c'est truculent à lire. Et en plus, ça a été fait à un moment où les patois étaient encore assez vivants. Hein. Maintenant, je ne serais pas... Il faudrait refaire des enquêtes sur le sujet. Donc voilà ce qu'il en est pour cette langue de spécialité, ce vocabulaire maritime. Je conclurai juste sur cette première partie, après j'aborde mes chasseurs, pour vous dire qu'en fait c'est un vocabulaire donc qu'emprunte beaucoup aux langues étrangères. Hein. C'est dû bien sûr au voyage, aux techniques. Donc c'est peut-être la langue de spécialité la plus ouverte et celle qui a été le plus influencée par les langues. J'en étais restée au néerlandais, il y a eu donc la période méditerranéenne, les Italiens, et le vocabulaire anglais, contrairement à ce qu'on aurait pensé, n'arrive que tardivement, à partir du 18e, plutôt 19e, avec le yachting. Hein, donc là on est sur autre chose. Voilà. Alors, comment j'en suis arrivée aux chasseurs? Parce que le seul point commun, c'est langue de spécialité. Mais évidemment, dans la thématique, les techniques, c'est quand même très, très différent. Mais c'est intéressant de comparer deux langues de spécialité. Hein, la langue. Alors là, c'est un projet, hein, c'est une demande hein, au pôle rural c'est moi-même, j'avais envie de travailler avec le pôle rural. Et puis, Jean-Marc Morisseau, on a convenu que ce serait bien de faire un dictionnaire numérique des termes de chasse. Alors... C'est un peu comme la langue des marins, hein, on part pas sur rien. Des dictionnaires de termes de chasse, il y en a. Des traités de vénerie, ce qu'on appelle de fauconnerie, existent depuis très longtemps. Et la langue des chasseurs est très ancienne aussi, comme celle des marins. Mais ce qui est différent, c'est que les traités, les petits dictionnaires, les petits glossaires ont été faits bien avant. Parce que ça reste une langue des nobles. Et on comprend pourquoi, hein, puisque plus les siècles vont passer, on va restreindre le droit de chasse aux roturiers, au point qu'ils ne chasseront plus. Hein, ça reste une langue des nobles. L'évolution, donc, est différente. Et autant la langue des marins continue toujours à s'employer, autant la langue des chasseurs est très réduite maintenant, hein, parce que ça, c'est quand même plusieurs volumes. Et le dernier petit dictionnaire que j'ai trouvé, vous voyez, il est tout petit, dictionnaire cinégétique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le passage des termes de chasse dans le vocabulaire de la langue courante. Voilà. Donc ça, par contre, il y a eu, c'est moins resté étanche, j'allais dire, hein, si je peux reprendre un terme. Donc je vous conseille Michel Lenoble Pinson, dictionnaire des termes de chasse passés dans la langue courante. Et on n'imagine pas le nombre de termes qu'il peut y avoir, comme avoir du plomb dans l'aile, être un fin limier, se mettre sur la voie, même se mettre sur la voie. J'aurais jamais imaginé que ça pouvait faire partie à l'origine d'un vocabulaire de chasse. Alors on trouve dans les traités de chasse déjà l'idée de bien parler la langue des chasseurs pour pouvoir bien chasser. Hein, donc ça aussi, c'est intéressant, hein, de cette revendication toujours d'une langue spécialisée, propre à un groupe social. Ça, c'est toujours très intéressant.